L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Êtes-vous content d'être dans la maison de Dieu ce matin? Amen. On est ensemble dans la famille de Dieu, rassemblés autour de la parole de Dieu, la parole qui dit toujours vrai. Amen. C'est merveilleux, la parole de Dieu demeure toujours pareille. Amen. Puis on a un rocher solide dans la parole. Je vais vous inviter maintenant à pencher vos têtes. On va juste remettre cette portion de la réunion au Seigneur. Père éternel, on vient devant toi ce matin. On veut te remercier pour ta sainte parole. On veut te remercier pour ta bonté. On te remercie également pour la présence de ton Saint-Esprit qui est ici. On te remercie aujourd'hui parce que tu nous aides à découvrir d'autres dimensions de qui tu es et des projets que tu en réserves pour nous. On a prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, le thème, c'est « Je prends mon envol ». Amen. Je prends mon envol. Vous savez, le Seigneur désire qu'on puisse progresser dans ses voies et je parle souvent comment Dieu veut qu'on puisse aller de l'avant. Mais vous savez pourquoi? C'est impossible pour un enfant de Dieu, pour une personne comme ça, de rester toujours à la même place ou dire, bien, je vais me stationner pendant un temps, ou pour les Français, me garer. C'est impossible de rester à la même place. C'est soit qu'on progresse avec Dieu ou on recule. Mais c'est impossible de rester là. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? C'est qu'on puisse toujours, toujours progresser dans les voies de Dieu, dans l'intimité avec son Saint-Esprit, qu'on puisse toujours avoir ce désir de se rapprocher de Dieu et d'être proche de notre Sauveur. C'est ça que Dieu veut pour nous, pour ses enfants. Et une des choses, quand je priais cette semaine pour la prédication, je voyais, c'est comme s'il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont comme des petits oiseaux dans une cage. La porte est ouverte pourtant, mais ils restent en dedans parce qu'ils ont été... pour 10 000 raisons, ils ont été peut-être séduits à croire que c'était normal qu'ils restent dans cette petite cage. Mais le Seigneur, aujourd'hui, il veut vous laisser savoir que cette porte est ouverte et vous avez été libérés et vous pouvez prendre votre vol. Vous pouvez aller vers de nouveaux sommets dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Et c'est merveilleux aujourd'hui qu'on va passer du temps dans la parole de Dieu pour découvrir exactement ce que Dieu veut pour nous, son Église. Mais une des choses également qui venait sur mon cœur, c'est concernant le désir de l'ennemi également. L'ennemi ne veut pas que vous preniez votre envol, il ne veut pas non plus que vous vous approchiez du Seigneur, que vous soyez un intime de Dieu, mais il veut vous garder éloigné de Dieu par 10 000 façons. Et c'est souvent dans nos pensées que ça se passe, où on pense, bien moi, je ne peux pas faire partie de cette catégorie de gens qui sont vraiment intimes de Dieu, je suis indigne, ou 10 000 raisons, des fois l'ennemi nous fait croire toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, je veux vous laisser savoir qu'on doit être réveillé et connaître vraiment, savoir que nous sommes dans une guerre spirituelle. Et l'ennemi veut vous empêcher de progresser. Je vais vous lire un texte dans Éphésiens, chapitre 6, et le verset 12, que vous connaissez tous très bien, je suis certain. Mais je vais vous lire quand même, parce qu'on a besoin des fois d'être rappelé de ces choses-là. Dans Éphésiens, chapitre 6, et le verset 12, il est écrit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et comprenez ceci, même si Dieu a une destinée pour vous, et même si le Seigneur veut vous faire découvrir la splendeur de l'Évangile, vraiment, que vous puissiez vraiment savoir comment Dieu est bon et comment le Seigneur veut vous faire goûter à la vraie vie en Jésus, l'ennemi veut vous garder vers le bas. Et puis, une des façons qu'il va faire, il va vraiment travailler dans vos pensées. Et même des fois, on peut ressentir des choses contre nous. Et le Seigneur nous appelle à être vigilants et comprendre, nous sommes dans une guerre spirituelle. Nous sommes dans une guerre. Et des fois, on peut s'imaginer un avion dans un temps de guerre, et même s'il y avait l'ennemi qui tirait, on peut voir quand même l'avion peut monter quand même. Même si l'ennemi tire, son fusil, peu importe. On peut prendre notre envol. Parce que dans cet avion, nous sommes protégés par le Seigneur Dieu. Nous sommes protégés, nous sommes dans une bulle. Si on veut se placer vraiment en Jésus, nous sommes dans cette protection divine et il n'y a rien que l'ennemi peut faire pour nous empêcher de décoller. N'est-ce pas merveilleux? Il va s'essayer. Il va s'essayer. Il va essayer de vous décourager. Il va essayer de vous faire croire que dans votre avion, il n'y a pas d'essence. Il va faire accroire toutes sortes de choses pour vous faire accroire qu'il ne vaut pas la peine d'embarquer dans l'avion pour partir. Mais aujourd'hui, on peut dire non, je suis en Christ, je marche avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur a des projets de paix et non de malheur pour ma vie. Alors moi, je m'engage avec le Seigneur et je vais m'envoler. Je vais m'envoler vers la terre promise, dans ma destinée. Amen. Et c'est ça que le Seigneur veut faire pour vous. Et ce matin, je vais vous inviter à tourner maintenant dans Ésaïe 40 et le verset 31. Je ressentais dans mon esprit cette semaine que peut-être certaines personnes vivent une fatigue spirituelle. Parfois, quand on est dans le combat de la foi, on vient fatigué, puis on se dit « Ah, ben c'est lourd, on dirait je me bats seul. » Et vous savez, le Seigneur a la réponse pour vous aujourd'hui. Il a ce remède pour vous. Et on va voir ensemble la direction de Dieu pour nous, si on vit la fatigue spirituelle. Dans Ésaïe 40, verset 31, il est écrit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Je vais relire. « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » N'est-ce pas merveilleux? Ça dit si on se confie en l'Éternel. Il faut se confier en Dieu et dans sa parole. « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent. Ils ne se fatiguent point. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? « Ils prennent le vol comme les aigles. » Parfois, on parle comment on peut rajeunir comme l'aigle. Est-ce que ça veut dire que les aigles, eux, ne vieillissent jamais? Non, mais en fait, c'est que l'auteur ici, qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est que les aigles ont les ailes lustrées parfois, et puis ils peuvent avoir les ailes lustrées, et puis ils paraissent comme si ils n'ont jamais vieilli. Et c'est comme ça dans le spirituel pour nous. Même si on peut avoir plusieurs années dans le Seigneur, et même si des fois on peut dire, bien, j'ai vieilli physiquement, mais dans le Seigneur, on ne vieillit pas spirituellement, dans le sens où on devient fatigué et dire, maintenant, je dois être à la retraite spirituelle. Comprenez-vous? On ne prend jamais une retraite spirituelle, tant ou aussi longtemps qu'on marche sur cette terre avec le Seigneur, et jusque dans les cieux, on va toujours être engagé spirituellement avec le Seigneur. Donc, on ne prend pas une retraite. Donc, c'est pour ça qu'on peut s'envoler comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Et puis on va dire, mais comment est-ce que c'est possible pour nous, les enfants de Dieu, on travaille, admettons 40 heures semaine, on est occupé, comment est-ce qu'on peut arriver à cette place où on n'est pas fatigué? Ici on parle spirituellement, on n'est pas fatigué spirituellement, mais il y a une seule façon de ne pas être fatigué spirituellement, et c'est la première chose qu'on a lu, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Nos forces ont besoin d'être renouvelées. Et l'endroit où on retrouve ce renouvellement, c'est dans la présence de Dieu. C'est important pour nous, à chaque semaine, à chaque jour, qu'on puisse vouloir passer du temps dans la présence de Dieu. Sans cette chose-là, sans ce temps dans la présence de Dieu, on va se fatiguer. On va trouver ça lourd, on va trouver ça difficile. Mais si vous prenez le temps avec le Seigneur et vous priez et vous cherchez la face de Dieu, la présence de Dieu va venir sur vous. Et dans vos moments de prière, dans vos moments de louange et d'adoration, comme vous mettez un CD à la maison, vous louez le Seigneur, la présence de Dieu descend. Et même si vous étiez fatigué, même physiquement, parfois on se relève et on dit « Wow, j'ai vraiment été rencontré par mon Seigneur. » Et spirituellement, là, je viens d'avoir des vitamines. Des vitamines C. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Parce que faut être réaliste. On vit sur cette terre. Nous ne sommes pas encore au ciel. Donc, faut vraiment se brancher vers le circuit céleste pour pouvoir persévérer dans les voies de Dieu. C'est pas toujours facile. Je peux vous dire, c'est pas toujours facile de marcher sur cette terre avec les défis. Faut comprendre, on a des défis sur cette terre. Donc, si on veut persévérer dans les voies de Dieu, on doit absolument être à la recherche de la présence de Dieu. Je peux vous dire, moi, je serais pas capable de venir ici si j'avais pas ce désir d'être plus proche de Dieu. Et je crois que c'est notre cœur. On veut tous avoir cette intimité avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, comme je vous partage ça, c'est vraiment pour vous encourager parce que je sais que certaines personnes, et c'est normal, on vit tous des moments où on devient fatigué. C'est normal, c'est normal. Quelqu'un qui court un marathon constamment et on n'a jamais de pause, bien, on va se fatiguer. Mais spirituellement, c'est la même chose. On doit s'arrêter avec le Seigneur, prier, chercher sa face. Et là, il vient nous donner ce qu'on a besoin pour avancer. Et son fardeau est doux et léger. N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux. Quand il nous rencontre, on est vraiment béni. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, je prends mon envol. Comment est-ce qu'on peut faire prendre notre envol? Bien, la première chose que je veux vous dire, c'est des choses de base que vous connaissez. Mais vous savez, des fois, là, les choses de base, c'est ce qu'on a vraiment besoin d'entendre. La première chose que je veux vous partager ce matin, c'est « Je m'envole dans la liberté en Jésus-Christ ». Première chose, vous êtes libre. N'essayez pas d'être libéré. Ne priez pas pour recevoir la liberté. C'est une perte de temps, ça. Vous avez été libéré par Jésus-Christ. Entrez dans votre position en Christ. Des fois, on prie « Seigneur, libère-moi. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. » Et puis Dieu dit « Je l'ai fait. » Je l'ai fait. La porte est ouverte. La porte de la cage est ouverte. Vous n'êtes plus esclave de l'ennemi. Maintenant, vous êtes libre. Libre en Jésus. Dans Jean 8, 36, il est écrit, si donc le Fils vous affranchit ou vous libère, vous serez réellement libre. Réellement libre. C'est important de réaliser ça et de méditer là-dessus. Si donc le Fils, on parle de Jésus, si Jésus vous a affranchi, vous serez réellement libre. Et pensez, pourquoi on est obligé d'avoir ce texte-là, réellement libre? Bien parce que des fois, on pense que c'est juste spirituel ou, d'une certaine façon, dans 2000 ans, dans 3000 ans, quand je vais être au ciel avec Dieu, là, je vais être libre. Non. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. En Jésus, vous avez vraiment la liberté. Amen. Libéré de quoi au juste? Bien, une des choses que je vais vous partager, c'est la liberté. Vous êtes libre du péché, de la domination du péché. Je vais passer quelques temps à vous donner les choses de base et après on va continuer dans les choses que peut-être vous ne connaissez pas encore. On va voir. Mais la liberté au niveau du péché. C'est important de comprendre ça. Dans 1 Corinthiens 1, verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 18. Je veux vous encourager. Si vous avez des défis dans votre vie, vous en avez sûrement tous, mais si vous avez un combat spirituel, peut-être il y a un péché, ça fait longtemps que vous avez une tentation et ça revient, peu importe, et puis vous essayez d'avoir la victoire. Aujourd'hui, je veux vous encourager d'écouter l'enseignement « L'infirmerie du Saint-Esprit ». C'est un CD qu'on a produit il y a quelque temps. C'est absolument important que chaque enfant dans cette maison soit exposé à cet enseignement-là parce que c'est la parole de Dieu pour la liberté, que vous n'êtes plus sous la domination du péché et n'essayez pas de vous libérer du péché. Vous êtes libre. C'est super important de vous exposer à cet enseignement-là, l'infirmerie du Saint-Esprit. Mais pendant quelques instants ce matin, je veux faire un rappel très rapidement sur ce thème-là. 1 Corinthiens 1, verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, pour les gens du monde. Mais pour nous qui sommes sauvés, les enfants de Dieu, elle est une puissance de Dieu. Je m'envole dans ma liberté en Jésus. À cause de Jésus et à cause de l'œuvre de la croix, aujourd'hui, on peut se tenir debout dans notre foi, libre de la domination du péché. » C'est important qu'on puisse vraiment comprendre que la source de notre victoire est exclusivement dans la croix de Christ, ce que Jésus a fait pour nous à la croix il y a 2000 ans. Je peux vous dire que c'est absolument impossible pour vous de faire du ménage dans votre vie par la chair. La chair produit toujours la mort. Mais si vous dites, j'ai ce problème, j'ai ce péché et je veux être libre, je veux vraiment être libéré de cette chose-là. Comprenez que là, 2000 ans, Jésus vous a déjà libéré de cette chose-là. Donc, si vous comprenez, j'ai déjà été libéré, là, je peux placer ma foi dans l'œuvre de la croix, comprendre que c'est déjà fait, et là, par ma foi dans l'œuvre de la croix, je reçois par le Saint-Esprit la puissance surnaturelle pour marcher dans la victoire et ne pas vivre dans ce péché-là. Ça vient par le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne peut pas endosser aucune autre situation. Si vous placez votre foi dans d'autres choses pour essayer d'être libéré, le Saint-Esprit ne donnera pas son accord et ne vous donnera pas sa puissance pour vivre victorieusement. Si vous dites, bien moi je vais prier plus, même si c'est très bien de prier davantage, vous dites, si je vais lire ma Bible trois fois plus que je lisais avant. Le Saint-Esprit ne mettra pas son onction sur votre performance personnelle pour vous acheter votre victoire. Mais c'est seulement ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans. Ça ne veut pas dire qu'on ne lit pas notre parole et qu'on ne prie pas. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais votre foi doit être exclusivement placé sur l'œuvre de la croix et je réalise, je n'ai pas un combat à livrer, le combat a déjà été livré et gagné par Jésus-Christ. Donc, je place ma foi, Seigneur Jésus, j'ai ce péché-là qui me domine peut-être, mais là, j'ai réalisé, je ne devrais pas me laisser dominer, parce que voilà 2000 ans, toi, tu as pris toute la puissance, tu as pris le châtiment pour me libérer de la domination du péché. Et aujourd'hui, je place ma foi dans le fait que tu m'as libéré, voilà 2000 ans. Et aujourd'hui, je suis libre. C'est pour ça que c'est écrit. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. N'essayez pas de vivre victorieusement par votre puissance personnelle. Des fois, on peut entendre les gens dire, « Ah bien, il faut que tu fasses du ménage dans ta vie. » Comprenez que le ménage a été fait à la croix il y a 2000 ans. Entrez dans la pièce propre. Entrez dans l'œuvre qui a déjà été accomplie. Ça change toute votre vie. Je peux vous dire, peut-être, des fois, on dit, « Je comprends ça. » Mais en fait, c'est pas toujours une réalité. Quand on réalise que le Seigneur m'a déjà libéré, ça va changer ma façon de prier. Ça va changer ma façon de me voir. Je suis pas un pécheur qui essaye d'être libéré du péché. Je suis un saint de l'Éternel qui a été libéré de la domination du péché. Et aujourd'hui, je marche dans la sainteté. Et c'est tout à fait normal. C'est normal de marcher dans la sainteté parce que j'ai été libéré. J'étais captif, mais maintenant je suis réellement libre. Amen. Donc là, on peut prendre notre envoi dans la liberté. Je n'ai pas l'esclavage qui me retient vers le bas. Mais non, je peux m'envoler avec le Seigneur. Amen. Et c'est pas à cause de moi. Ça, c'est le comment de la sainteté. On peut prêcher toutes sortes de choses, mais on doit savoir où je dois placer ma foi. Ne placez pas votre foi en vous-même, mais placez votre foi dans le Seigneur Jésus. Il ne vous laissera jamais tomber, parce que l'avez déjà fait. Amen. On est libre de tout péché. On est libéré également de toute culpabilité. Amen. On est libéré de toute culpabilité. C'est là où l'ennemi, parfois, il travaille. Parce qu'on a été pardonné de nos péchés et on marche avec le Seigneur dans la sainteté et pourtant l'ennemi revient et puis là, il nous rappelle les fautes du passé. Et puis là, on a un sentiment comme quoi on est indigne. Je ne mérite pas cette marche avec le Seigneur. Je ne mérite pas de marcher avec Jésus. Je peux vous dire vrai, on ne mérite pas de marcher avec le Seigneur. Dans notre position, dans notre condition humaine, on mérite l'enfer. On mérite tous l'enfer, mais à cause de la grâce du Seigneur Jésus, aujourd'hui, on peut être libéré non seulement du péché, de sa domination dans nos vies, mais on peut être libéré même de la culpabilité du passé. Amen. Vous devez absolument être libéré de la culpabilité si vous voulez vous envoler avec Dieu. Le Seigneur veut que vous puissiez être libéré à ce niveau-là. Le texte, vous connaissez, Romains 8, versets 1 à 2. Il n'y a donc maintenant, dites maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En effet, la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, m'a affranchi, m'a libéré. Voyez-vous, c'est encore dans le passé. M'a affranchi, vous avez été libéré. De quoi? De la loi du péché et de la mort. Vous étiez obligé de pécher avant parce que vous étiez esclave du péché, mais vous avez été libéré. Amen. Je vais relire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pour qui? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. On doit marcher dans cette révélation-là. C'est simple. C'est simple. Mais c'est impossible de s'envoler, d'entrer dans notre destinée, de marcher avec le Seigneur avec joie. Sans cette révélation-là. Dernière chose concernant notre liberté, on doit être libre du poids lourd des soucis. Des soucis. C'est ça qui nous garde parfois écrasés, à terre. On ne veut pas s'envoler parce qu'on a des choses qui nous retiennent. 1 Pierre 5, verset 7. Ici, je vais vous faire remarquer, c'est un commandement. Ce n'est pas une suggestion de Dieu. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Il est écrit, dans 1 Pierre 5, 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est une chose qu'on doit souvent répéter. On doit souvent répéter ça parce qu'en tant qu'être humain, c'est normal, humainement, qu'on retombe là-dedans, qu'on se met à s'inquiéter. Mais Dieu nous donne le commandement dans sa parole, 1 Pierre 5-7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Car lui-même, remarquez, lui-même prend soin de vous. Quand on fait ça, quand on se décharge de tous nos soucis, on se décharge à la bonne place devant le Seigneur. On dit, Seigneur, je t'apporte ces choses. L'ennemi veut me faire méditer sur ces choses qui m'apportent toutes sortes d'inquiétudes, ces soucis de la vie. L'ennemi veut m'enlever ma joie, ma paix. Il veut m'enlever toutes ces choses positives que je devrais vivre dans mon salut en Jésus-Christ. Seigneur, je me décharge sur toi. Sur toi. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lui-même. C'est le Seigneur lui-même qui va prendre soin de vous, si on peut se décharger. Et ce matin, si vous êtes dans cette église et puis vous êtes écrasé par un fardeau quelconque, moi je vais prier pour vous maintenant. Et on va le faire ensemble. Amen. Des fois, on peut apporter un message puis juste prier à la fin, mais savez-vous, on n'est pas obligé de faire ça. On peut sortir de la religion, on peut prier maintenant. Si vous avez des soucis dans votre cœur, peut-être vous êtes inquiet pour quelqu'un que vous aimez qui est malade. Peut-être c'est un enfant qui s'en va dans une mauvaise direction, qui s'en va dans le péché. Peut-être c'est dans vos émotions, il y a des choses. Vous savez, c'est impossible d'avancer dans la vie chrétienne par notre force personnelle. On a besoin de la main de Dieu. On a besoin que le Seigneur nous relève. On a besoin qu'il mette sa main, qu'il vienne guérir nos cœurs brisés. Et ça ne veut pas dire que nos problèmes sont plus là, mais on sait que c'est lui qui va les régler. Amen. On sait que sa main est pas trop courte, son bras n'est pas trop court pour agir dans la situation. Alors, on va prier maintenant. Père éternel, je vais prier pour mes frères et mes sœurs dans cette maison. Seigneur, il y en a qui sont ici, qui sont écrasés par des soucis. Peut-être certaines personnes ont même peur des commentaires, des jugements, toutes sortes de choses, peut-être des inquiétudes au niveau des finances. Oh Seigneur, le peuple ici, dans cette maison, on décide ensemble, on se présente devant ta croix et on veut se décharger, Seigneur Dieu. On veut répondre à l'appel dans ta parole qui nous commande de se décharger sur toi, sachant que tu vas prendre soin de nous. Seigneur, aujourd'hui, on marche dans l'obéissance. On se décharge maintenant au nom de Jésus. On se décharge de nos soucis. Et maintenant, Seigneur, nous recevons ta paix surnaturelle. Ta paix surnaturelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que c'est possible de vivre la paix surnaturelle? Dans des temps difficiles, peut-être. Oui, c'est possible. On dit, oui, Seigneur, je reçois. Je reçois ta paix. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Des fois, on dit, OK, bien, j'ai prié cette prière. Je veux marcher dans la liberté, la culpabilité, du péché, la liberté de ces soucis que l'ennemi peut-être voudrait me faire vivre. Mais comment est-ce que je peux vraiment vivre dans la liberté de ces soucis, de toutes ces choses-là, dans la pratique? Qu'est-ce que je peux faire? Bien, une des choses qu'on doit faire, c'est je dois comprendre, quand on lit dans la parole de Dieu, ça dit « lui-même prendra soin de vous », une des choses qu'on doit comprendre, c'est que le Seigneur travaille avec son corps. Et des fois, on est à l'aise avec le Seigneur, on dit, Seigneur, moi, je veux te donner mes requêtes, je vais te donner les choses qui me préoccupent, je te fais confiance, toi, Seigneur, mais en même temps, je ne fais pas vraiment confiance à ton corps. Et le Seigneur, aujourd'hui, veut faire un changement, il veut toucher des choses dans nos cœurs pour qu'on puisse vraiment faire confiance au Seigneur par l'entremise de son corps. Parce que le Seigneur, vous savez, c'est pas juste une tête qui se promène, mais le Seigneur a un corps, et le corps de Christ, c'est son Église. Amen. Donc, comment est-ce que je peux m'envoler? Oui, avec le Seigneur, mais je m'envole également bien entouré avec ma famille spirituelle, le corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ. Et c'est une chose qu'on a souvent eu comme difficulté ici au Québec, parce qu'on a vécu des choses dans le passé, des blessures quelconques, peu importe. Et puis, parfois, on a peur de s'approcher des gens. Et le Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il veut nous faire comprendre que c'est important pour nous de se rapprocher du corps de Christ, qu'on soit proche l'un de l'autre. Je vais vous inviter à tourner dans Éphésiens 4, verset 16. Je m'envole bien entouré avec ma famille spirituelle. Ce n'est pas un vol solo que Dieu nous appelle à vivre, mais ça nous appelle à s'envoler ensemble. Ensemble. C'est comme la marche chrétienne, quand on a marché ensemble, il y a un impact. Amen. Comme on se promenait, on était peut-être 1000 personnes qui marchaient là-bas à Québec. Et puis comme on marche ensemble, il y a un impact. Amen. Mais quand on est tout seul, c'est difficile. Dans Éphésiens 4, verset 16, il est écrit, « Car c'est de lui, de Jésus, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. » Avez-vous remarqué qu'il tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties? Tout seul, des fois, on trouve ça difficile, ça devient lourd, mais quand on est ensemble, c'est plus facile parce qu'on peut s'encourager mutuellement et la force d'une personne peut venir dans ma vie. Je peux profiter de la force d'une autre personne dans un domaine quelconque. Mais quand on est tout seul et isolé du corps de Christ, et quand on vit notre vie chrétienne comme ça, d'une façon indépendante, on ne vivra jamais l'expansion dans notre vie comme le Seigneur voudrait. Le Seigneur veut qu'on puisse s'envoler, mais c'est jamais un vol solo, mais c'est ensemble. Ensemble, je ne sais pas, comme ici dans la région, on est proche du lac Brome. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué les canards qui s'envolaient. Mais on voit, là, c'est une multitude de canards qui s'envolent. Et il y a une force ensemble. Je m'envole avec l'aide de mes frères, pas dans la solitude. Une des choses, comment est-ce qu'on peut vraiment vivre la vie d'église? On peut être là, on dit bien, je viens à l'église le dimanche matin, c'est bien, mais comment est-ce qu'on peut vraiment arriver à cette place où on se connaît? Comme l'église grandit, c'est difficile de connaître tout le monde intimement. Bien, il y a des structures que le Seigneur nous a données. Le Seigneur nous a donné une vision pour qu'on puisse se connaître. Une des choses, je reçois l'amour de ma famille spirituelle. Ça, c'est une des choses que le Seigneur veut qu'on puisse vraiment vivre dans l'Église, que je puisse recevoir l'amour que le Seigneur a en réserve pour moi. Le Seigneur m'aime, oui, mais il veut m'aimer également par son corps, qui va se manifester, qui va me démontrer l'amour de Christ d'une façon tangible. Des fois, on dit, oui, je donne mes soucis au Seigneur, mais vous savez, des fois, on a besoin d'un être humain qui nous révèle des choses, qui nous démontre la nature de Christ. C'est important d'être ensemble. Et une des choses, je reçois l'amour de ma famille spirituelle. Comment est-ce que je peux vivre ça? Mais vous savez, à l'église, on a les groupes vie. C'est des temps, à chaque semaine, où on se rencontre dans une maison, on est environ une dizaine, maximum 12 personnes. On vient ensemble, on prie ensemble. Il y a certains groupes qui chantent ensemble. On fait un retour sur l'enseignement du dimanche matin. Et puis ensemble, on grandit. On grandit dans les voies de Dieu. On est entouré, on n'est pas tout seul. Si quelqu'un vit une épreuve, bien, les leaders du groupe vie sont là pour connaître la situation et pour encourager la personne. C'est important. C'est ça que Dieu veut pour nous, qu'on puisse être connectés ensemble. Et c'est là, dans mon groupe vie, je reçois l'amour de ma famille spirituelle. Mon groupe vie, cette famille m'écoute quand je partage des choses positives et m'écoute aussi quand j'ai des défis pour prier avec moi. Elle m'appuie dans la prière, elle me donne des bons conseils spirituels. Des fois, on est mal entouré dans notre vie. Des fois, on est la seule personne sauvée dans notre environnement. Et puis là, on vit des défis et on ne peut pas en parler à nos proches parce qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'est-ce qu'on vit. Des fois, c'est des choses spirituelles. Et un inconverti ne peut pas nous conseiller dans les voies de Dieu, c'est impossible. Ils ne connaissent pas Dieu. Donc, quand on est entouré de notre famille spirituelle, c'est super important. Donc, je reçois l'amour de Dieu en côtoyant mes frères et mes sœurs. Mais ce n'est pas juste de recevoir qui compte, mais en même temps, c'est de donner l'amour à mes frères et à mes sœurs dans la maison de Dieu. Encore une fois, ça se passe dans les groupes vie, ça se passe dans les ministères divers. Si vous êtes impliqué dans un ministère quelconque, vous pouvez vraiment exprimer l'amour de Dieu envers les autres. Dans Actes, chapitre 20, verset 35, c'est dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous savez, des fois, là, on est là, on vit le besoin, OK? Actes 20, verset 35, des fois, on vit un besoin. Et parfois, c'est dans le moment où on vit le plus grand besoin que Dieu nous appelle à semer de l'amour. Et là, on reçoit la guérison de Dieu à ce moment-là. Vous savez, j'ai connu l'histoire d'un couple, ils venaient de vivre une tragédie. Une tragédie, ils venaient de perdre leur enfant qui venait de mourir dans un accident. C'était des évangélistes à la télévision. Et puis là, le Seigneur leur a dit, allez à la télévision et priez pour les personnes à la maison. Et puis la femme du pasteur, elle disait, « Ah, oh, ben moi, je me sens vraiment pas capable de faire ça. Je vis un deuil. » Et c'est certain que le Seigneur connaissait sa situation, mais il savait que la clé pour cette personne-là, c'était de semer de l'amour à ce moment-là. Donc, par obéissance, elle est allée à la télévision. Le couple, le mari et la femme sont allés à la télévision et puis ont semé de l'amour pendant qu'ils vivaient un chagrin. Et comme ils semaient de l'amour, ils sont devenus vraiment des canaux pour l'amour de Dieu, pour des multitudes. Et là, l'amour de Dieu qui coulait en eux, comme l'amour de Dieu coulait en eux, eux-mêmes recevaient la guérison. Imaginez être un canal de l'amour de Dieu. Puis quand l'amour coule, vous aussi vous êtes impliqués là-dedans. Vous aussi vous recevez de Dieu. Ça dit ici, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous savez, nous avons tous des dons et des talents. Et quand on se côtoie, on découvre nos dons et nos talents. L'autre jour, je vais vous donner juste l'exemple très facile. J'étais dans ma salle de bain et puis une porte d'armoire tombe à terre. Vous allez dire, mon Dieu, le pasteur vit dans une vieille cambuse. Non, mais ça s'est adonné que dans notre salle de bain, on a deux armoires, okay, devant le lavabo. Et mes deux petites filles, des fois, ils vont ouvrir la porte et puis vont s'appuyer sur la porte, OK? Sur la porte d'armoire. On ne devrait pas faire ça, hein? C'est pas normal. Ils vont s'appuyer, et puis après un bout de temps, là, ça devient lousse, et puis finalement, ça tombe à terre. Bon, moi, avec mon onction manuelle, que j'ai pas, j'étais un petit peu frustré. Et moi, je peux perdre la victoire, vous savez, des fois. Des fois, ma femme, elle me voit, quand je sors une drill, puis ça marche pas bien, elle dit, oh, tu vas perdre la victoire, je le sais, là, elle prophétise. Puis ça s'adonne que c'est vrai, je perds la victoire parfois, parce que je suis pas super manuel, mais je suis quand même capable de me débrouiller, là. Des fois, ma femme pense que je suis incapable de rien faire, même pas mettre un clou, là. Donc, franchement, quand même. Mais là, l'autre fois, j'ai une belle drill. Je pense que c'est mon beau-père qui m'a donné ça. Une belle drill, là, de chez Sears. Bonne qualité. Mais ça fait genre 4 ans qu'il est dans une boîte, puis on s'en sert pas souvent. Mais j'ai toujours une batterie, une pile, là, qui est là, qui est sur chargeur, là. À chaque fois que je veux m'en servir, elle marche pas, cette affaire-là. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Je suis stressé et moi, quand je mets une vis et puis la vis tombe à terre, je perds la victoire. En tout cas, juste vous dire. Sauf que là, je suis en train de travailler là-dessus et là, c'est qui m'appelle? C'est Patrick qui m'appelle à la maison, qui travaille dans les médias à l'église. Et puis, il dit, qu'est-ce que tu fais par ça? J'ai dit, ben, je suis en train de perdre la victoire. Et puis là, il dit, ah, ben, si tu veux, je vais aller chez toi. Moi, j'ai une bonne drill. C'est pas qu'elle est pas bonne, c'est juste qu'elle est trop vieille, je pense. Mais il dit, je vais arriver avec ma drill et puis je vais te réparer ça. Alléluia, gloire à Dieu. C'est pas compliqué. Il est venu en quelques minutes. Bzzz, bzzz, tout était beau et fait et j'étais encore dans la joie. Mais imaginez, ça, c'était un bonus de faire partie de la famille de Dieu. Ça, c'est juste vous donner ça comme exemple, là. Mais l'onction d'une personne que j'ai pas, moi, j'ai pas l'onction d'être un menuisier ou peu importe. Là, je suis pas manuel trop. Quand même un petit peu. Mais c'est pas mon onction dans la vie. Mais là, je peux tirer de l'onction de quelqu'un d'autre dans ma famille qui est là. Hey, je vais t'aider, je vais donner un coup de main. Puis j'étais assez honnête pour lui dire qu'est-ce que je faisais. Puis je perdais la victoire. Sauf qu'il est venu. Gloire à Dieu. C'est juste des choses. Sauf qu'on peut servir dans notre famille spirituelle. Dans Matthieu 23, verset 11 à 12. Matthieu 23, verset 11 à 12, ça dit, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est une des choses que le Seigneur veut pour nous, qu'on puisse servir. Puis, pour certaines personnes, peut-être, pour vous, c'est une chose à découvrir, le don de soi. Je ne sais pas, je ne connais pas tous, mais peut-être c'est une chose à découvrir. Vous avez entendu dire que c'était plus, on recevait plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et peut-être vous dites, j'ai de la misère à croire ça, moi. Essayez-le. Des fois, quand on a donné à quelqu'un, et là, on voit la personne touchée par le Seigneur, transformée, qui se réjouit, nous aussi, on est bénis et on est heureux. On dit, waouh, je suis content pour cette personne-là. Hein? C'est normal, c'est merveilleux. Adoptons une conspiration d'amour et de bonté à un vécu. Est-ce qu'on peut faire ça? Je parlais avec mon épouse, elle dit, conspiration, c'est pas négatif d'habitude? Oui, d'habitude, c'est négatif, mais nous, on va avoir une conspiration anti-satanique. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va choisir d'aimer intentionnellement. On va dire, on va donner un coup de pied à l'ennemi et on va aimer d'une façon tangible et on va avoir vraiment un mandat et on va avoir ce désir intentionnel. T'sais, moi, je veux marcher dans l'amour. Vous allez dire, comment est-ce que je peux faire ça? Bien, vous pouvez offrir un compliment à quelqu'un aujourd'hui. Savez-vous? C'est possible. Aujourd'hui, là, je veux vous donner un défi. Vous êtes dans cette maison. Il y a plusieurs personnes qui regardent autour pendant que je prêche, pas pendant toute la prédication, écoutez-moi quand même, mais faites le tour et dites, Seigneur, je peux bénir quelqu'un, montre-moi la personne que je pourrais bénir aujourd'hui. Et là, Laissez le Seigneur. Je sais pas. J'ai dit quelque chose de drôle, celle-là? Ah, OK, j'ai pas vu. Mais demandez au Seigneur, qu'est-ce que je peux dire à une personne? Et là, peut-être, vous allez juste donner un compliment, et là, ça va vraiment venir toucher la personne. En plus, vous pouvez multiplier les dimanches. Vous n'êtes pas obligé de faire ça juste aujourd'hui, mais à chaque jour de votre vie, vous pouvez chercher à être une personne qui va bénir les gens. Donner des compliments, ça ne coûte rien. Ça ne coûte pas, puis chacun, c'est authentique. Hein? C'est ça qui est important, il faut que ça soit véritable. Pas dire, hey, j'aime beaucoup ta coupe de cheveux, puis oh, c'est atroce, hein, c'est atroce. Mais vraiment... Mais on dit un compliment qui veut vraiment dire quelque chose. OK? Offrir un compliment, c'est une chose, ça ne coûte rien. Démontrer votre appréciation à quelqu'un. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de dire, hey, moi, j'ai apprécié telle chose et le dire? Des fois, on a de la misère à le dire, mais ça fait du bien. Ou même, encore, vous faites même aller à l'autre niveau. Offrir un cadeau à quelqu'un. Bien là, offrir un cadeau. Oui, vous pouvez dire, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner telle affaire. C'est pas obligé d'être très compliqué. Ça peut être un muffin au chocolat. Puis, le Seigneur m'a mis à cœur de te bénir avec un muffin au chocolat. Puis là, c'est une petite douceur. C'est une petite douceur. Est-ce que c'est possible dans la famille de Dieu de faire des choses comme ça? C'est possible. Puis là, quand on fait ça, imaginez le diable qui aurait aimé mieux, après la réunion, qu'on quitte et qu'on parle ou qu'on fasse des choses, de la critique. Mais là, au lieu d'être dans son royaume, on travaille dans le royaume de Dieu. Puis c'est aussi facile. Hein? Dire, hey, regarde telle personne, j'ai pas aimé ses chaussures, c'était quétaine à mort. Ou, au lieu de faire ça, passer mon temps à dire ça, je peux dire, ah, mais regarde, je vais acheter un muffin pour l'autre personne. C'est une leçon très profonde. Non, c'est pas profond du tout, mais c'est une chose que Dieu nous appelle à faire, de marcher dans l'amour comme ça. Troisième chose, donc jusqu'à présent, c'est pas trop compliqué. Je m'envole bien entouré avec ma famille spirituelle. Le Seigneur nous appelle vraiment à être entouré. Il nous appelle pas à marcher isolé. Si on s'isole, c'est là où on devient un cible de l'ennemi. Parce que quand une petite brebis s'en va, l'ennemi, lui, il dit, ah, moi, je peux attaquer. Si vous avez déjà écouté les émissions de télévision avec, National Geographic, et puis là, vous voyez le lion, ou en tout cas, les tigresses qui sont là, et puis on voit les biches tout seul. Hein, c'est ça? Les gazelles, bon, une gazelle. Là, vous voyez, ils sont tout seuls, mais là, c'est toujours la personne ou l'animal qui est en danger. Mais ensemble, on est plus fort, on est plus protégé. Et en même temps, une autre chose, c'est que quand vous êtes dans une famille spirituelle comme ça, bon, quand ça va mal, on peut le savoir, mais en même temps, vous faites connaître le cœur de votre pasteur qui veut vous aider. Puis là, vous dites, oui, mais le pasteur ne peut pas connaître tout le monde, mais avec nos leaders de groupe vie, on peut être au courant de votre situation et intervenir. Et en même temps, les leaders de groupe vie connaissent notre cœur et puis vont savoir comment bien représenter l'amour de Dieu dans vos vies et dire, ben moi, je sais que le pasteur, il voudrait pas que tu fasses, que tu abandonnes ta foi en Jésus à cause de telle affaire, mais non, il veut que tu puisses t'approcher de Dieu. Ils vont pouvoir représenter le cœur de la maison ici. Comprenez-vous? Donc ça, c'est une bonne chose. C'est très bien d'être dans une famille spirituelle où on grandit et là où on peut s'envoler. Une autre chose, troisième point, je m'envole à la bonne heure et à la bonne place. Imaginez, vous voulez partir en vacances, OK, vous êtes là, mais vous arrivez à l'aéroport, 2 heures en retard après le vol, et puis vous êtes à Toronto, mais vous étiez supposé de partir à Montréal. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous êtes super honnête, vous allez au comptoir, mais regarde là, je veux partir, j'ai un voyage pour aller à Hawaï, là, et je veux vraiment partir. Monsieur, mais c'est écrit... Montréal ici, mais vous êtes à Toronto. Je sais, mais je suis honnête, là, je veux vraiment partir. Puis regarde, j'ai mes bagages. Monsieur, on peut pas vous aider. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On est frustré, n'est-ce pas? On est frustré. Mais pourquoi qu'on s'est rendu à Toronto quand on pouvait être à Montréal? Là, on est frustré. Il y a toutes sortes de choses. Là, vous allez comprendre qu'est-ce que je suis en train de dire d'ici quelques instants. Dans notre vie chrétienne, c'est comme ça. Quand Dieu nous appelle à faire des choses, et puis si on part avant le temps, on va être frustré parce qu'on va avoir longtemps à attendre puis vivre toutes sortes de choses difficiles. Et quand Dieu nous appelle à agir et passer à l'action, puis là, on n'a pas obéi au bon moment. Là, on est en retard. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est frustré encore parce que là, on est en retard et il n'y a rien qui décolle, ça ne va pas bien. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit frustré, enfant de Dieu. Donc, je veux m'envoler à bonne heure et à la bonne place. Je vais vous expliquer comment ça. Une des choses qu'on doit voir, c'est qu'il y a des étapes, il y a des niveaux de croissance spirituel dans le corps de Christ. Si on comprend ça, si on comprend, OK, il y a des âges, si on veut, ou des niveaux de croissance, des stades de croissance, là, on peut discerner là où nous sommes rendus et ça va nous aider à gérer l'ambition qu'on peut recevoir. Parce que Dieu, il vous donne des projets, et c'est important pour nous de chérir ces projets-là, mais en même temps d'avoir une bonne attitude jusqu'à temps qu'on les vive. Amen? Donc, une des choses, je veux vous inviter, on va aller pendant quelques instants dans 2 Timothée 2, verset 15. 2 Timothée 2, verset 15, je veux juste vous lire un texte ici que j'ai enseigné hier au collège biblique, dans 2 Timothée chapitre 1, verset 15. J'ai dit 2, c'est 2. 2 Timothée 2, verset 15. Ce matin, c'est assez relax et c'est correct comme ça. Des fois, on a besoin des messages pour nous stimuler, puis il y en a d'autres fois, c'est juste un temps thérapeutique. Pour vous aider. Amen. 2 Timothée 2, en passant, l'onction, ça n'a pas rapport avec le volume. Je peux vous dire, allez dans 2 Timothée 2, verset 15. Hallelujah! Mais vous ne recevrez rien de plus. OK? 2 Timothée 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ici, Dieu, là, il ne veut pas qu'on rougisse. Avez-vous remarqué? Qui n'a point à rougir. On recommence, il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un homme éprouvé va avoir passé des preuves. Amen. Ici, le texte, ça nous dit on devrait prendre du temps, bien étudier avant d'enseigner la parole de Dieu. OK? Efforce-toi. Donc, il va y avoir des efforts dans le naturel. Je vais m'efforcer. Je vais prendre le temps d'étudier la parole de Dieu. Je vais lire des commentaires bibliques. Je vais vraiment aller à fond dans les textes que je vais prêcher. OK? Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier, quelqu'un qui travaille ici, un ouvrier qui n'a point à rougir. Le moment où on va rougir, c'est quand on dit des choses et après quelqu'un vient nous dire, mais regarde, là, c'était complètement hors contexte ton affaire. T'as pas pris le temps de lire le contexte, t'as pas lu, t'as pas vérifié dans le grec et dans l'hébreu pour voir qu'est-ce que tu disais. Là, c'est gênant. Oh, là, notre visage, il vient rouge. Mais Dieu veut pas ça. Il veut pas qu'on rougisse. Donc, qu'est-ce que ça prend? Ça dit, efforce-toi. Et le temps, là, de s'efforcer et d'étudier, c'est un temps ça prend du temps. Et c'est pareil comme dans la marche chrétienne, il y a un temps de formation. En toute chose, on va se former. Et des fois, les gens me disent, j'ai déjà eu des personnes à l'assemblée, « Pasteur, je veux prêcher dimanche prochain. » Ils ne sont plus ici dans l'église en passant. « Pasteur, je veux prêcher dimanche prochain. » Et puis, « Ah, c'est intéressant. » Gloire à Dieu, parce que tu as un désir, OK? Mais après, il faut savoir gérer ça et on peut avoir l'appel de Dieu. Oh, Dieu peut nous appeler à prêcher, certainement. Mais Dieu va toujours bien faire les choses, OK? On va avoir l'ordre pour que la personne, quand la personne prêche, elle est prête à le faire et puis les gens également sont prêts à recevoir. Là, qu'est-ce qu'on veut voir ensemble? Je veux juste vous présenter trois stades ici de la croissance spirituelle. Et là, vous allez entendre ces choses-là et peut-être vous évaluer, OK, moi, je suis à cette place-là. En passant, on a un bon cours à l'IBEM V, Campus La Victoire, sur la croissance spirituelle. C'est super merveilleux. Et vous allez voir, il y a certaines choses que j'ai prises de ce cours-là que je pense que, en tout cas, des choses qui vont pouvoir vous aider. Mais la première chose qu'on veut voir, il y a le nouveau-né spirituel. Le nouveau-né spirituel. On va aller dans 1 Pierre 2, versets 1 à 3. Le nouveau-né spirituel. Est-ce que c'est honteux être un nouveau-né spirituel? Non! Hein? Quand on va à l'hôpital puis on voit une mère qui vient d'accoucher d'un petit bébé, on trouve ça beau et merveilleux et wow, on trouve ça un beau petit bébé et on se réjouit quand il y a quelqu'un qui accepte le Seigneur et qui est là dans la famille de Dieu comme un nouveau-né. C'est merveilleux ça. Donc, c'est pas une question d'avoir honte, mais c'est juste un fait. 2 Pierre, versets 1 à 3. Ça dit, rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance désirée comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Avez-vous remarqué, moi je l'aime ce verset-là, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ça c'est la première leçon du bébé spirituel. Comprendre que le Seigneur est bon. C'est bon ça, hein? Moi j'aime ça. En tout cas, moi ça me bénit. Mais là, c'est dit désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. Ça, c'est une chose. Quand quelqu'un vient au Seigneur, on est au niveau du lait. Et le lait, c'est bon. C'est pas mauvais de boire du lait quand on est un bébé spirituel. Faut juste comprendre là où nous sommes. Spirituellement, moi, je suis à la place où j'ai besoin de boire du lait. OK? Quand on est là, bien là, on grandit. Et comme on se laisse façonner par le Seigneur, on grandit puis on va à l'autre étape et on devient un enfant spirituel. Mais des choses que je dois vous faire comprendre concernant le nouveau-né, il y a des caractéristiques que vous allez voir, ben c'est un peu négatif, mais pas nécessairement. C'est juste un fait, OK? C'est un fait. Le bébé spirituel ou le nouveau-né, c'est quelqu'un qui est innocent. Il a besoin d'être encadré pour éviter la séduction, pour pas que la personne se fasse embarquer dans des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. OK? Donc, si je réalise que moi, je suis un bébé spirituel, je suis un nouveau-né, c'est important de vraiment vous entourer de frères et de sœurs qui sont matures dans les voies de Dieu, surtout comme dans un groupe vie, vous êtes entourés et les gens vont pouvoir vous aider. Vous savez, on a tous des combats spirituels. Et même si on est plus vieux dans le Seigneur, on va toujours avoir des combats spirituels. Mais surtout quand on est un enfant de Dieu, un nouveau-né, qu'est-ce qui se passe? C'est que des fois, on vit des choses et on s'imagine qu'on est les seuls à le vivre. Mais là, vous rencontrez votre frère ou votre sœur qui est plus mature dans le Seigneur, et puis ils vont pouvoir vous dire, « J'ai déjà passé par là, je veux t'aider, je vais prier avec toi, et où j'ai découvert telle chose. » Et là, vous avez cette connaissance, ce conseil-là, et vous pouvez grandir et être sécurisé là-dedans. Et donc, on peut voir ici, le bébé, comme dans le naturel, est innocent, OK, et doit être encadré. Et en passant, des fois, on peut dire, bien moi, ça fait longtemps, je suis un enfant de Dieu, donc je suis vraiment, maintenant, aujourd'hui, je peux voir, je suis un adulte spirituel. Mais l'âge physique, OK, n'a rien à voir avec l'âge spirituel. Ça n'a rien à voir. Ça dépend la place que vous avez donnée à la parole de Dieu. Ça fait peut-être 10 ans que vous êtes un enfant de Dieu et vous êtes peut-être un nouveau-né spirituel. Et des fois, ça peut être de notre faute parce qu'on n'était pas intéressé de lire la parole de Dieu pour nous-mêmes. Mais des fois aussi, c'est juste parce qu'on était dans un contexte où on était entouré de bébés spirituels et on n'avait pas les clés pour savoir comment avancer. On avait une soif, mais on ne le savait pas trop. On avait la parole, certainement. Mais juste une chose, ça dépend vraiment de notre contexte, là où on a grandi. Donc, si on est dans une marche de l'humilité. Si on dit, ben Seigneur, je veux marcher dans l'humilité, montre-moi où, là où j'en suis rendu aujourd'hui. Et puis le Seigneur va vous montrer, puis il va vous aider là-dedans. Donc, on peut comprendre, le nouveau-né peut être innocent. Ignorant également. C'est comme dans le naturel, n'est-ce pas? Un petit bébé vient au monde, il est ignorant, il ne connaît pas toutes les choses de la vie. Donc, il peut être facilement impressionné par les manifestations surnaturelles. Est-ce que ça veut dire qu'on est contre les manifestations du Saint-Esprit? Non, on est pour les manifestations du Saint-Esprit, mais pas de la chair. Et des fois, quand on est un bébé spirituel, il y a quelqu'un qui vit quelque chose de surnaturel, et là, forcément, on dit, ah, ben ça, c'est de Dieu, et puis là, on n'a pas nécessairement la connaissance pour discerner la chose. Il y a toutes sortes de choses qu'on a vues dans notre marche chrétienne. Quelqu'un vit une chose, oh, j'ai reçu ça de Dieu, et là, ça m'a vraiment touché. Et là, on dit, OK, mais qu'est-ce que tu as reçu? Ben, j'ai reçu que Jésus revenait pas. Ah, OK, mais je pense que tu te trompes. Ben non, c'est venu très, 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 très intense, là. C'est anti-biblique. Et là, avec un frère, une sœur plus mature, on peut intervenir et aider la personne. Mais le bébé, le nouveau-né spirituel, a besoin de l'humilité. Sans l'humilité, vous allez rester un nouveau-né spirituel longtemps. C'est ça l'affaire. Et malheureusement, j'ai rencontré des personnes, ça fait 30 ans dans la vie chrétienne, que j'ai connu, c'est triste, mais ils sont toujours à la même place. Parce qu'ils n'ont jamais voulu grandir, parce qu'ils connaissaient tout. Ils venaient de naître au monde, mais ils connaissaient tout. Ils connaissaient assez pour reprendre le pasteur. Mais pourtant, ils n'avaient jamais pris le temps de grandir dans les voies de Dieu. Donc, ignorant, facilement impressionné par les manifestations surnaturelles, et irritable. Émotif, instable, facilement frustré, distrait, blessé. En passant, on peut être un adulte spirituel et être blessé. Savez-vous ça? Est-ce que c'est possible d'être un adulte spirituel et blessé? Oui, c'est possible. Il faut faire la nuance. Ici, on dit facilement blessé. Une différence, facilement. On arrive à l'église, quelqu'un ne nous dit pas bonjour. Ah oh, ben là, on embarque sur le téléphone, puis on dit, ben là, la personne est contre moi, elle m'a pas dit bonjour un matin, j'ai vu qu'elle s'est essuyé le nez en même temps qu'elle parlait à quelqu'un d'autre, parce qu'elle voulait me cacher le visage, elle voulait pas me voir. Ben, toutes sortes de scénarios qu'on peut se faire. Facilement. Facilement blessé. C'est pour ça, quand on sait qu'on est un bébé spirituel, laissons-nous dorloter. Laissons-nous entourer. Laissons-nous aimer. Et là, on va en faire des erreurs. C'est correct, ça. Parce qu'on comprend que vous êtes un bébé. Mais quand ça fait 30 ans que vous êtes encore un bébé, qu'est-ce qui se passe, là? C'est qu'on dit, là, laissons-nous vraiment t'aider. Puis si on est humble, puis on dit, ben, ça fait 30 ans que je suis chrétien, puis je pense que je suis encore là. Mais si vous l'avouez, puis dites, OK, peut-être j'ai manqué des choses, Et là, laissez-vous aimer, laissez-vous enseigner et grandissez. Et on va célébrer votre croissance. On va faire des fêtes, avec un gâteau de fêtes. Rendu maintenant un enfant spirituel. OK? Faut faire la nuance. Ici, des choses instables. Ça, c'est normal. Un petit bébé est instable, hein? Peut être irritable. Hein? Comme ma fille, parce que je veux pas dire le nom. Mais une de mes filles, là, elle, depuis qu'elle était au monde, elle voulait pas être attachée dans son siège d'auto. Elle sentait toujours pris, là. Elle était irritable, elle était stuck, I'm stuck. On était en Alberta, puis on comprenait pas, mais elle aimait pas ça être attachée, elle aimait pas ça les pyjamas avec des petits bols, parce que I'm stuck. Elle sentait irritable, je suis pris. Et là, c'est un bébé nouveau-né. On a appris, ma femme, elle a appris. Ah, on y achètera plus des pyjamas comme ça. Hein? L'enfant spirituel maintenant. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3, l'enfant spirituel. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ, je vous ai donné du lait, non de la nourriture, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, là, ça continue. Donc, on voit ici l'enfant spirituel. Là, les caractéristiques qu'on voit, c'est quelqu'un instable, OK, manipulé facilement. Donc, on a toujours besoin d'être encadré. On a besoin d'encadrer une personne comme ça, besoin de la corriger et conseiller. Est-ce que c'est mauvais d'avoir des conseils? Non, c'est pas mauvais, c'est une bonne chose. On va encadrer nos enfants, on va dire, regarde, là, fais pas telle chose, va pas jouer avec tel ami parce que eux sont comme ci, comme ça. On veut te protéger, on veut encadrer. L'autre chose, irrégulier, une caractéristique ici de l'enfant spirituel, dans le service, il est irrégulier dans son service dans l'Église et dans l'engagement. Il y a de la difficulté, beaucoup de difficulté à être régulier, à être engagé. Ça, c'est l'enfant spirituel. Curieux. Il s'occupe des affaires des autres. Je suis très curieux. Ah oui? Ah! Oui! Oh! Et la pire chose, bavard, il juge et critique les autres. Ça, c'est quelqu'un, et ça se passe même des fois chez les bébés spirituels. Mais ici, on voit l'enfant spirituel, quelqu'un qui aime ça entendre les gens parler, critiquer, et il embarque là-dedans. Si vous dites, oh mon Dieu, moi, ça fait 30 ans que je fais ça, Seigneur, aide-moi. Bien, à matin, vous venez d'apprendre, vous êtes un bébé ou un enfant spirituel, mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Dieu nous change. Si on est humble, puis on dit, Seigneur, bien, peut-être que je suis un ado. Je suis quand même pas si pire, hein, comme on dit en québécois. Je suis peut-être un ado. On parle des trois catégories. Si vous dites, ben, il y a des choses, je suis encore comme, en général, je suis encore un enfant, là, heureusement, vous pouvez aller au stade de l'adulte. L'adulte, vous allez dire, OK, mais c'est qui ça? Comment est-ce qu'on le décrit? L'adulte ne considère pas ses intérêts personnels, mais celles du royaume de Dieu. Ça, c'est un adulte spirituel. Il est prêt à marcher sur ses désirs personnels, parce qu'il est un adulte. Il est prêt à marcher sur son orgueil. Il est prêt à s'oublier lui-même pour l'Église, pour les choses de Dieu. Des fois, on n'a pas le goût de servir. Des fois, on n'a pas le goût de faire telle ou telle chose. Si on est un bébé, on dit, ben là, moi, je ne le fais pas, j'ai besoin de mon biberon. Ça, c'est la réaction du bébé. Mais quand vous devenez un adulte, vous avez peut-être la même émotion qui vient. J'ai pas le goût. Mais la façon que vous allez gérer cette chose-là va être différente. Admettons, est-ce que je peux vous parler de moi-même sans que vous pensiez que je suis un adulte, là, que je suis en train de me proclamer glorieux? Je veux juste vous expliquer une chose. Quand j'étais en Alberta, il y avait une émission de TV et je devais participer. Et en fait, c'était une émission en direct. Et quelqu'un venait de me blesser. Vraiment, j'étais blessé. Je m'avais senti comme si j'étais un morceau d'un meuble. On dirait que j'étais juste comme une chaise, une table, on prend, on tasse. À ce moment-là, j'ai vécu quelque chose de difficile. Et là, le président de l'antenne de TV me dit, « OK, c'est toi la prochaine personne qui va parler à TV. » C'était un téléthon, c'est en direct. Et là, moi, je suis allé le voir pendant la pause publicitaire avec les yeux remplis d'eau. J'ai dit, « Je peux pas. » J'ai dit, « J'ai rien à donner. » J'étais juste blessé. J'ai dit, « J'ai rien à donner. » Là, il me dit, « Tu vas y aller, sinon t'es pas un leader. » Et là, humainement, là, j'avais le goût de pleurer. J'avais les yeux pleins d'eau. Là. J'avais le goût de pleurer. Quelqu'un m'avait blessé, puis c'était légitime. Comment que j'ai géré ça? J'aurais pu m'en aller chez nous, dire, ben là, je suis blessé. Ou, ben, de toute façon, j'ai eu vraiment un bon encouragement. Hein? C'est comme, Là, il a dit, tu vas y aller. Puis il m'a parlé comme ça. Tu vas y aller, sinon t'es pas un leader. Mais lui, il était pas super affiné, des fois. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Je me tiens là, j'ai le goût de pleurer. 5, 4, 3, 2, 1. Well, praise the Lord, everybody, praise God. Et puis là, j'ai continué. Je me sentais comme un hypocrite, mais c'était pas un hypocrite. J'avais décidé de pas me laisser gérer par mes émotions. Puis c'est ça que Dieu veut pour nous. Des fois, c'est plus difficile. Ouais, mais là, c'est hypocrite. Non, c'est pas hypocrite. C'est que j'ai une vraie blessure, mais je vais la gérer plus tard. Là, en ce moment, je suis obligé d'être là. Puis Dieu m'appelle à faire ce ministère-là, je vais le faire. Comme voyez-vous, je ne considère pas à ce moment-là mes intérêts personnels, mais celles du royaume de Dieu. Puis je vous donne ça juste comme illustration, vous montrer une chose que j'ai vécue. Mais voyez-vous, j'étais là, mais c'est l'enfant spirituel qui voulait régner à ce moment-là. Mais des fois, avec l'aide de quelqu'un d'autre qui est là pour nous donner un petit coup de pied, on avance et on devient un adulte. Mort à la critique et à la louange. Mort à la critique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moi, je n'entends pas les critiques de personne, je ne suis pas enseignable. Non, on peut recevoir la critique, mais la critique ne va pas nous détruire. Et mort à la louange. Des fois, okay, on peut dire à un enfant, « Oh, tu fais bien ça, tu fais bien ça. » Et puis l'enfant va dire, « Ah, ben là, je vais continuer à faire telle chose parce que je me fais encourager. » Mais des fois, les gens vont dire, « Ah, tu fais bien telle chose, j'aime ça, qu'est-ce que tu fais, tu es super bon. » Puis j'ai parlé de donner des compliments tantôt, là. Ça fait que continuer quand même. Mais c'est que c'est pas les compliments ou l'encouragement qui va nous gérer. Parce que, ah ben là, tu fais telle affaire, ah ben là, j'aime ça les compliments, donc je vais continuer à faire telle chose. Non, je vais faire ce que Dieu m'appelle à faire. Donc, je suis mort à la critique et je suis mort aux compliments. Les compliments sont là, ça me bénit, certainement, mais c'est pas ça qui va me diriger dans ma vie. Okay? Donc, je suis un adulte spirituel, je me laisse guider par le Saint-Esprit. Et reconnais que Dieu est à l'œuvre. Et j'ai plein de versets que je pourrais vous lire, mais ça prendrait vraiment trop de temps. Donc, l'adulte spirituel. Je vais vous donner au moins Hébreux 11, versets 24 à 26, si vous voulez vérifier, concernant l'adulte spirituel. Et en terminant, quatrième point, comment connaître l'heure de mon envol? On ne veut pas être en retard. Si vous dites, ben moi, je veux prêcher, je sens que j'ai l'appel de Dieu à être prédicateur ou peut-être pasteur, je veux être un pasteur, je veux être un évangéliste, je veux être prophète, apôtre, je veux faire telle chose, je sens que Dieu m'appelle à faire cette chose-là, comment est-ce que je peux connaître l'heure de mon envol? Et me rendre à bonne place, au lieu d'aller à Montréal, je ne veux pas aller à Toronto, je veux être à bonne place. Donc, comment connaître l'heure de mon envol? Une des choses, ne soyez pas en retard. Ne soyez pas en retard. Je vous lis Hébreux 5, versets 12 à 14. « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait, n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les enfants, ou les hommes faits plutôt, les hommes matures. Pour ceux dont le jugement est exercé, donc vous avez de l'expérience de vie, là, l'expérience de vie fait de vous quand vous avez grandi dans les choses de Dieu, puis vous avez une tête sur les épaules, vous êtes capable de juger, évaluer les choses, donc vous avez une expérience, c'est super important. Des fois, on pense que l'expérience, ça compte pour rien. Non, l'expérience, ça compte pour quelque chose. C'est super important. Car là, ça dit, alors quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Bon, ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ne soyez pas en retard. Ici, on voit, probablement, c'est l'apôtre Paul qui est l'auteur ici en Hébreu. Et là, il dit, vous auriez dû être rendu plus loin, mais vous êtes en retard. Donc, décidez, pour être à l'heure, ne soyez pas en retard, OK? Mais comment être à l'heure? Savez-vous comment? C'est en étant fidèlement au service dans votre église locale. Si vous êtes dans votre église locale, bien le Seigneur va mettre une lumière du ciel sur votre tête quand c'est temps de vous relâcher. Éphésiens 4, versets 11 à 15. Ici, je vais vous lire, c'est super important, j'ai pratiquement terminé. Éphésiens 4, versets 11 à 15. Ça dit, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour, dites pour. » Donc, les cinq ministères qu'on vient de voir ici sont pour quelque chose. Pour le perfectionnement des saints, en vue, dites en vue. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, les cinq ministères sont dans l'église locale pour le perfectionnement des saints, vous aider à grandir dans les voies de Dieu, en vue de faire quelque chose. Le désir, c'est pas de vous garder assis toute votre vie, non, mais c'est de prendre soin de vous jusqu'à temps que vous soyez prêt à œuvrer dans certains ministères, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait ou mature, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Dieu ne veut pas ça. Mais, verset 15, « Mais que professant la vérité dans la charité ou dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. » Donc, admettons, vous êtes dans un groupe vie, ok, vous êtes là, vous êtes fidèle, on voit votre fidélité, on voit les fruits dans votre vie, bien peut-être vous allez devenir le prochain leader du groupe vie ou d'un autre groupe vie qui va se former. Et là, comme vous êtes là au service de Dieu, et on voit les fruits dans votre vie, okay? On voit la croissance spirituelle dans votre vie, on est au courant de votre vie aussi, parce que vous êtes relié au corps de Christ, vous n'êtes pas isolé. Quelqu'un qui est isolé, qu'on ne connaît pas, c'est impossible pour nous de bénir et de les relâcher à faire quelque chose. Quand on ne connaît pas la personne, c'est impossible. Donc, si vous êtes un chrétien inconnu, vous êtes en dehors du corps, de la vie du corps, et on ne peut pas autoriser ou bénir quoi que ce soit. Comprenez-vous? Ça fait du sens? Aimeriez-vous ça avoir un médecin qui fait une chirurgie sur vous, mais qui n'a jamais passé de test nulle part? Ben moi, je suis très, très bon. J'ai étudié des livres tout seul, là. Je suis pas mal certain que je sais comment faire une chirurgie là, dans votre cerveau. Non, mais c'est vrai, spirituellement, c'est la même chose. Vous devez passer au test. Donc, vous servez fidèlement à l'Église. On voit, oh mon doux, admettons, la personne sert dans un groupe vie, mais à chaque fois qu'elle est dans un groupe vie, tout le monde se met à pleurer. C'est la déprime. J'aimerais ça aimer Jésus, mais c'est tellement dur. OK. Et là, les gens ne veulent plus revenir. La personne n'est pas prête encore d'être pasteur. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas relâcher les pasteurs. On veut. Une des choses, comment est-ce qu'on travaille? C'est important pour vous de connaître. Vous avez un désir pour le Seigneur. Vous voulez servir le Seigneur. Vous voulez entrer dans votre appel et dans votre destinée. Entrez dans le service, comme j'ai prêché tantôt. Hein? Entrez dans le service. Servez le Seigneur. Ayez un cœur de serviteur. Oui, mais je veux être grand. Exactement. Servez. Servez. Servez dans l'église locale. Deuxième chose, laissez votre caractère être éprouvé. Laissez votre caractère être éprouvé. Oh! Est-ce que j'ai une bonne attitude à l'église? On vient de changer une chose, je ne suis pas d'accord. Est-ce que je suis loyal envers le leadership? Est-ce que je suis loyal envers mes frères et mes sœurs ou je parle dans leur dos? Imaginez si je parlais dans votre dos. Dieu ne voudrait pas ça, hein, en tant que pasteur. Donc, on ne peut pas relâcher quelqu'un dans un ministère si on ne voit pas les fruits dans leur vie. Okay? Ça fait juste du sens. Donc, l'épreuve de votre caractère, admettons dans votre groupe vie, vous commencez comme un participant et après, peut-être, vous commencez à prendre le rôle de responsable en leadership. Et là, on voit la croissance, on voit la santé, on voit la maturité. Peut-être vous vous inscrivez même au collège biblique, à l'IBMV, et vous êtes là, vous vous remplissez de la parole de Dieu. Là, on voit que vous êtes passé du stade du nouveau-né à l'enfance et vous êtes devenu un adulte spirituel. Et là, en plus, on a eu l'expérience avec vous. Quand on avait à vous corriger, vous redresser, vous donner des conseils, vous avez reçu ces choses-là et vous avez grandi. Qu'est-ce qui se passe des fois? On donne une opportunité à quelqu'un, on donne une correction et la personne est frustrée, puis elle s'en va, elle quitte, bien, la personne n'était pas prête à vivre d'autres choses. Elle ne peut pas recevoir plus. Parce que, imaginez, si on ne peut pas rien recevoir, juste vous dire, pendant que vous dormez, là, s'il y a des ministères qui se font critiquer, bien, il y en a toutes sortes de ministères qui se font critiquer, vous devez être capable de prendre la critique et ne pas le prendre personnel. C'est vrai. Sauf que si vous voulez servir le Seigneur, c'est glorieux, c'est merveilleux. C'est super merveilleux de vouloir servir le Seigneur. Mais il faut passer le test. Il faut passer la fournaise. Et des fois, c'est difficile. Mais comme vous sortez, vous dites, OK, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas blessé plus tard. Des fois, on peut être pasteur, on peut être apôtre international, mondialement. Et quand même, quand le monde utilise des choses, ça peut être blessant quand même. Ça ne veut pas dire qu'on est devenu des roches, là. Mais qu'est-ce qui se passe? On va gérer différemment. Okay? Donc, c'est tout ça, ça fait partie de notre vie. Et la dernière chose pour votre champ de formation, pour votre appel, savoir patienter. Savoir patienter. Peut-être là, votre course là, pour accéder à cette chose-là que Dieu vous appelle à faire, vous êtes rendu, et là, le Seigneur, il sait, vraiment, j'ai tout ce que je voulais faire là, pour faire tel ministère, je l'ai vraiment travaillé dans ton cœur. Mais là, je vais juste travailler pendant 6 mois la patience. il va être totalement effacé. Il n'y a pas personne qui va le voir. Pendant 6 mois, je le laisse dans noirceur et puis on va voir s'il est patient. Mais là, hey, j'ai fait l'IBM, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il y a plein de fruits dans ma vie. Comment ça ne me relâche pas? Attendez le temps de Dieu. Si vous êtes prêt à attendre, vous allez récolter ce que Dieu en réserve pour vous. Qu'est-ce que je vous dis un matin? C'est vraiment pratique. C'est pour vous aider. Parce que sinon, vous pouvez partir à Toronto au lieu d'être à Montréal. Sinon, vous pouvez partir. Dites, mais moi, je veux faire ça. Oui, moi aussi, je veux que tu le fasses. Moi aussi, je veux que tu le fasses. Mais je veux que tu le fasses puis que tu sois prêt. Je veux que tu sois prêt. Parce que quand tu quittes et tu fais l'œuvre du ministère et tu es prêt, ça ne veut pas dire que tu es parfait. Là. Il n'y a personne de parfait. Mais quand tu es prêt, là, on va t'appuyer, on va prier pour toi. Et là, il va y avoir des fruits. Si tu pars et tu n'es pas prêt, ça va être des vies brisées. Des vies brisées. On en rencontre des fois des ouvriers qui brisent des vies parce qu'ils ne sont pas matures. Et puis là, quand, admettons, ils ont une blessure, ils vont prêcher à l'église puis ils vont... C'est un couteau, là. Je vous aime pas. Dieu vous aime pas non plus. C'est la revanche. Hein? C'est ça. Mais quand vous êtes prêt... Même si vous avez reçu 10 coups de couteau dans le dos, vous dites, Hallelujah, Dieu est bon. C'est ça que Dieu veut. Et maintenant, comprenez-vous ce que je suis en train de dire ce matin? On vous découvrira si vous êtes branché au corps et si vous êtes connu du corps. Et maintenant, vous pouvez prendre votre envol. Dieu veut que vous puissiez vous envoler. Attendez le temps de Dieu. Laissez-vous former. Laissez-vous travailler. Marchez dans l'humilité. Laissez le Seigneur vous faire grandir. Mais on coopère hein, avec le Seigneur. Le plus que vous mettez la parole de Dieu en priorité dans vos vies, c'est plus que vous allez grandir. C'est vraiment ça. Si je dis Seigneur, ta parole dit toujours vrai, puis je veux me laisser travailler par toi, le Seigneur va faire des grandes choses dans vos vies. Amen. Je vais inviter l'équipe de la louange. On va chanter ces louanges. Comme dit, j'ai prêché plus longtemps, mais je pense que c'était nécessaire. Amen. Surtout vu que je viens de dire, on va être patient. Dieu vous a donné déjà un bonus ce matin. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez reçu la parole de Dieu ce matin?
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.